24. Catherine le matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Salut Michel.
Salut Kat. J'adorais aller au baseball des carnavals de Québec à l'époque.
Oui, c'était quoi
là? C'est là que j'ai vu. Ben, à cette époque-là, les expos arrivaient. Donc, l'exposition de Montréal était le fer de lance, la vitrine de la métropole. Et à ce moment-là, Québec, c'était le carnaval.
Oui, oui.
Qui était la vitrine. C'est pour ça qu'on les a surnommés les carnavals.
Ah, c'est pour ça. Mais l'uniforme ressemblait à quoi, mettons? Est-ce qu'on se souvient?
Ah, celui des expos.
Ah oui? OK, le bleu, vraiment le bleu pâle. Ouais,
puis honnêtement, là, c'était du sabre et bon baseball. Là. J'ai vu Barry Foote et Gary Carter. Gary Carter qui jouait au champ extérieur alors que Barry Foote était le receveur. J'ai vu Larry Parrish, j'ai vu Ellis Valentine, Warren Cromarty, Tony Scott.
Et Michel, écoute, là, il faut dire, c'était à l'époque de la Ligue Eastern, et nous, ici à Trois-Rivières, c'était les Aigles de Trois-Rivières, qui était le club école. C'est ça, qui était
Dan
le club école des Reds de Cincinnati.
Ah oui, OK, quand même.
Oui, et il y avait de ça après, bon joueur. Dan Dreesen était le joueur vedette des Aigles. Ken Maka également, qui était un entraîneur des Expos, qui était un excellent frappeur.
Ken Griffey.
Avec les... Oh non, Ken Griffey.
Écoute, oui, c'était vrai.
Vraiment du baseball extraordinaire. On a vu Jim Rice et Freddie Lynn qui jouaient pour les Red Sox de Pawtucket. Tu avais la filiale des Yankees à Winter Haven. Toutes les vedettes du baseball majeur qui le sont devenues quelques années plus tard sont passées par Québec et Trois-Rivières.
Ben,
c'est vraiment le fun.
Ouais, mais je vais être obligé de vous dire quelque chose. Des fois, je vous agace en vous disant que vous rotez le passé. Mais je m'excuse, mais votre rotage de passé est très intéressant et très pertinent ce matin. Je vous félicite,
messieurs. Le rotage de passé. Vous autres, c'est ça le problème de vous autres, les
bon,
jeunes.
Bon, nous autres, les jeunes, ça y est.
Toi, es-tu millénial? Toi, t'es pas millénial.
Mais non, franchement, j'ai 41 ans, Michel. Là. Laisse faire
non, mais des fois, tu parles comme une adolescente.
Ah! à peine. Mais je suis un peu ado encore. Bon.
Oui, je sais.
Okay.
C'est ce qui fait ton charme, d'ailleurs.
Entre
autres. Tu ne vieillis pas.
Ça et tellement d'autres caractéristiques. Michel, je veux qu'on parle de Charles Hudon parce que moi, ça fait un an que je souhaite que ce gars-là ait une vraie chance avec le Canadien. Est-ce que ce sera cette année?
Mais j'espère. Écoute, faut pas se fier non plus à ce qu'on a vu hier après-midi, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui ont regardé ça? Moi, je l'avais enregistré parce que je jouais au golf hier après-midi, puis j'ai regardé ça sur l'heure du souper en préparant le repas. Puis honnêtement, là, j'ai dit à ma femme après 10 minutes, OK, là, on arrête ça, là, je perdrai pas mon temps, il n'y a rien à voir, parce que c'est pas du hockey de la Ligue nationale, il n'y a pas de contact. On était là, on patinait. Dans le fond, c'est une petite séance d'entraînement. Là. C'est un petit warm-up bien tranquille. Mais ça va commencer ce soir contre les Bruins de Boston au Québec. Normalement, Charles Hudon devrait être dans l'alignement. Mais le voir travailler aux côtés de Plekanec et de Lekkonen, je pense que là, il a une chance vraiment de se faire valoir.
Mm-hmm.
Mais ça va durer combien de temps?
Ouais.
Est-ce que ton favori, Paul Byron, va rester longtemps sur le quatrième trio alors qu'il a marqué 20 buts l'année passée?
Ben, Je ne le sais pas. Mais Michel,
sauf
est-ce qu'on peut...
Là, Hudon doit briller rapidement.
Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut présenter, peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, moi, Charles Hudon, je l'ai connu à l'époque où il jouait pour les Saguenay de Chicoutimi. Moi, je l'ai découvert là. Mais mettons, les gens qui ne connaissent pas Charles Hudon, c'est quel genre de joueur?
Écoute, c'est un petit joueur intelligent qui se doit d'avoir du succès offensivement. Parce que je pense pas que Charles Hudon ait assez de qualité pour être un joueur défensif dans la Ligue nationale. C'est là qu'il a la difficulté pour un joueur qui a du talent, qui doit l'exprimer offensivement, alors qu'un joueur défensif n'a pas rien à prouver offensivement. Ses qualités défensives justifient seulement leur présence dans la Ligue.
Ouais, mais explique-moi ça. Peux-tu m'expliquer? Puis moi, je comprends pas. Pourquoi qu'on demande toujours à un gars qui est offensif qu'il faut qu'il soit bon en défensive? C'est donc bien fatigant, ça.
Alors qu'un joueur en défensive, il n'y a
pas
besoin
d'être
bon.
Non, mais Charles Hudon, là, faut qu'il marque puis qu'il y ait des passes. Lâchez-moi en défensive, on en a 42 qui s'occupent de la défensive.
Absolument. Et je dois dire que dans le hockey d'aujourd'hui, regarde quelle pourrait être la composition du quatrième trio du Canadien. Là. Dans le fond, il n'y a pas vraiment personne de défensif là-dedans, à part Torrey Mitchell.
Ouais.
On a des gars qui sont capables de travailler offensivement. Et c'est là que là-dessus que le Canadien peut se démarquer. Si on est capable d'être menaçant, parce que lorsque tu affrontes l'équipe, là, le premier puis le deuxième trio affrontent les meilleurs trios de l'autre bord et surtout les deux premiers duos de défenseurs. Mais lorsque tu arrives 3 et 4, tu as des chances de jouer contre des trios qui sont moins dotés offensivement et au niveau de la rapidité.
Mm-hmm.
Puis tu joues contre la troisième paire de défenseurs qui sont des fois un petit peu moins mobiles. C'est là que tu peux te démarquer. Et c'est là que le Canadien pourrait peut-être se distinguer. Si on a assez de vitesse, on a assez de talent, sur les troisième et quatrième trios. Si ton troisième et quatrième ligne sont meilleurs que l'autre bord, puis on réussit à tenir tête ces deux premiers, tu peux tirer ton épingle de jeu.
Ouais.
Et c'est là qu'on va voir durant le camp d'entraînement. On va remarquer ça, comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'un Charles Hudon a la chance de se distinguer. Mais il est aussi bien de se distinguer rapidement.
Ah ouais.
Parce que tu l'as dit, pourquoi il n'y a pas. Tu l'as dit en ouverture. J'ai hâte qu'on lui donne une véritable chance. Et écoute, il a attendu son tour. C'est le meilleur marqueur de l'équipe dans la Ligue américaine, puis jamais on lui faisait signe.
Ouais.
Fait que est-ce que c'est vraiment l'homme de la direction du Canadien? Je ne le sais pas. Mais lorsqu'on dit que quelqu'un doit forcer la main à ses patrons, je pense que l'expression prend son véritable terme dans le cas de Charles Hudon.
Absolument. Hey, ça, c'est une belle fin de saison, puis les Alouettes, puis l'Impact, ça va bien. Hein? C'est...
Oh, tabarouette,
hey, c'est désolant. Hein?
Écoute, hein? Les Alouettes, c'est épouvantable.
Ouais.
Après tout ce qui s'est passé, le cirque de la semaine dernière, arrivé avec une performance comme celle-là, alors qu'on ne répond même pas, c'est le boss là, qui est le coach. Là.
Ouais.
Mm-hmm. Kevin, c'est lui le patron.
Ah, ouais.
C'est lui qui est le coach. Puis on offre une performance comme celle-là, aïe, aïe, aïe.
Puis tu remplaces le quart arrière, qui est un vétéran, Durian Duran, dès le deuxième quart.
Non, écoute, ils s'en vont dans le mur. Ils sont dans le mur. Ouais. Ils ont déjà frappé le mur en pleine face. Ça va pas bien, ça va se terminer en queue de poisson. Et du côté de l'Impact, je comprends le pauvre Joey Saputo qui demande aux gens d'être patients. Mais il y a une chose qu'il faut dire, là. On a monté une belle équipe qui est capable de marquer des buts, d'être excitant. Mais ça fait 4 ans qu'on n'est pas capable de se défendre.
Ben, je sais, exact.
On n'est pas capable de juguler l'attaque adverse lorsque le moment est important. On réussit à prendre l'avant. On s'endort tout de suite après un but tout le temps. Puis on commet des fautes dans son territoire. Là. Je comprends pas ça. On n'a aucune notion de défensive chez l'Impact de Montréal depuis le tout début, depuis la création de cette équipe-là.
Mais...
C'est autant le Canadien manque d'attaque, autant l'Impact manque de défensive.
Mais est-ce que tu vas aussi loin que Philippe Quentin, que j'entendais en fin de semaine sur nos ondes dans Week-end Extra, dire à Mathieu Beaumont, je pense que cette équipe-là a été surévaluée. Est-ce que tu vas aussi loin que ça?
Moi, je te dirais qu'il y a d'excellents éléments en attaque.
Ouais.
Mais on n'est pas capable de se défendre. Est-ce que ça a été surévalué? Je ne crois pas. Mais on est incapable. Écoute, là, il y a toujours des brèches incroyables. Si les joueurs de l'Impact, avec le talent qu'ils ont, obtenaient autant de chances de marquer qu'on en accorde à l'adversaire, ça serait un pique-nique à toutes les fins de semaine. On se défend pas, point c'est tout.
Ouais,
puis dans le recrutement des joueurs, écoute, là, il y a un problème. Au niveau de l'évaluation du talent en défensive, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Non.
Les bons pions ne sont pas aux bons endroits.
En terminant, Michel, outre évidemment ce match hors concours entre le Canadien et les Bruins, tu vas écouter du football ce soir?
C'est sûr, sauf qu'hier, là, il y avait deux matchs. Tu sais, au football, là, autant tu peux t'appeler Aaron Rodgers puis être l'un des deux ou trois meilleures carrières de la NFL, mais quand t'as pas ton bloqueur à gauche puis t'as pas ton bloqueur à droite, qui sont les deux positions essentielles maintenant sur la ligne offensive, là, t'es toujours obligé de presser ton jeu, d'avancer, de précipiter ta passe. Le receveur est pas prêt, tu lances des mauvaises mains. C'est ce qui s'est passé hier pour les pauvres Packers de Green Bay. Mais ce qui a retenu mon attention dans ce match contre les Falcons, et pour les gens qui nous écoutent, qui l'ont vu, avez-vous vu le stade?
Non, sincèrement, pas vraiment.
Oh, ma petite fille,
ah ouais?
Ça n'a pas de mots. Une merveille architecturale. Et il y a un toit ouvrant, c'est le seul qui fonctionne de cette façon-là. Et si tu voyais l'écran géant, il fait le tour du stade en haut dans la coupole, au complet.
Ah oui?
Okay. Ça a pas
de... ben
moi,
voir
je
ça,
me
Michel.
Propose d'arrêter par Atlanta pour aller. Écoute,
ouais.
Il y a depuis l'inauguration du stade des Cowboys de Dallas, il s'est construit au Minnesota. C'est extraordinaire ce qu'on a fait.
Mm-hmm.
Mais là, un stade qui a coûté 1,5 milliard à Atlanta, qui est tout à fait, écoute, extraordinaire. On peut-tu construire des arénas de hockey qui vont être. Tu sais, dans le fond, un stade, là.
Ouais.
C'est une signature d'une ville, puis les architectes peuvent s'en donner à cœur joie. Mais je te dis, essaye de mettre la main. Sur YouTube, il y a sûrement des images.
Mm-hmm.
Va voir le nouveau domicile des Falcons. C'est ahurissant.
Okay,
moi, là, j'en avais la bave au bec.
OK. Parfait. Hey, Michel, on s'en reparle demain matin.
Hey, ça commence-tu bien la semaine?
Absolument. Ça commence tout en douceur, dans l'accord, dans la tendresse. Des fois, c'est moins ça. Mais ce matin, oui, non, on part un beau lundi, non. Michel.
Un beau lundi. Fait que, écoute, peut-être qu'on ne tiendra pas le même discours demain après le match.
Ah, ben là, écoute, pars pas négatif, s'il te plaît. Pour une fois qu'on a une chance de gagner la Coupe Stanley.
Tu tu m'as accusé la semaine dernière d'être trop positif.
C'est vrai,
et
c'est vrai.
Et quelques jours plus tard, tu m'accuses d'être trop... Écoute, vas-tu te faire une idée?
Ben non, mais c'est parce que là, t'es un peu bipolaire, là, c'est pour ça. Là. Branche-toi,
non,
Michel.
Je ne suis pas moi, je suis réaliste.
Oui, oui, OK, parfait. Allez, on s'en reparle demain.
Okay. Hey, pendant que je te vois, je vois une annonce de Lâcher Lousse, ton émission favorite.
Oui, mon émission favorite. Ben, va l'écouter, puis tu m'en reparleras. Okay.
Non, oui, moi, je vais perdre du temps à écouter ça.
Hey, salut, Michel. Bonsoir. À demain. 7h49.